Il me semble que c'est un des grands domaines dans lequel on peut radicalement, par notre façon d'être par rapport à la maladie, changer quelque chose dans notre relation avec nous-mêmes. Et donc, dans notre relation à la vie, aux autres et à ce que nous faisons de notre corps. Vous avez peut-être constaté tout à l'heure, quand monsieur faisait un peu un détail de certains des titres que j'ai publiés, tout ça tourne autour de la notion de bien-être, une notion qu'on voit beaucoup en ce moment, et dont certains disent que c'est un peu la quête du bien-être et du bonheur à tout prix, qu'il faut absolument être bien, que c'est un stress supplémentaire. C'est pas de ça qu'il est question. C'est pas être bien. C'est être le mieux possible à un moment donné, avec soi-même, avec les autres, avec ce qu'on vit, avec ce qu'on sait de nous. C'est un chemin. C'est pas un but. Il n'y a pas un moment où je peux me dire je suis bien. Voilà, ça y est, j'ai trouvé l'équation, j'ai trouvé les outils, j'ai fait mon marché, j'ai mis dans ma besace ce dont j'avais besoin, mes concepts alimentaires, mes petites plantes, mes séances de relaxation, etc. Maintenant, je sais, je suis bien, voilà, c'est fini. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un chemin où on fait en permanence le mieux possible, en sachant que les ruptures sont inévitables, que je crois que c'est même pas imaginable d'imaginer de vouloir être bien tout le temps. Je pense que ce serait d'un ennui mortel, d'ailleurs. Et il me semble que ce sont ces ruptures dans notre état mental, dans notre humeur, dans notre adaptation à l'environnement, dans la façon dont fonctionne notre corps, ce sont ces ruptures qui nous réveillent et qui nous révèlent. Et à ce titre, on peut, je crois, les apprécier et parfois même leur dire merci. C'est peut-être un peu exagéré parce qu'il y a des moments quand on souffre, on n'a pas du tout envie de dire merci à la souffrance, mais ça ne serait pas loin de ça. En tout cas, il y a quelque chose qu'on ne fait jamais, c'est de dire merci à notre corps en dehors des moments de souffrance. Donc on a une fâcheuse tendance à penser à lui uniquement quand il va mal, quand il se rappelle à l'ordre, quand on a une douleur ici, quelque chose qui nous empêche de fonctionner, quand on tousse, quand on se mouche, quand on a des choses désagréables. À ce moment-là, on le prend en considération, ce corps, parce qu'il a des ratés, on lui en veut, on voudrait que ça guérisse plus vite, on voudrait que cet ustensile soit à nouveau à notre disposition. Comme si, effectivement, c'était un ustensile. Ça n'est pas un ustensile. C'est une partie de l'entité qui fait nous. C'est une machine incroyablement complexe et subtile qui nous rend des services incessants tous les jours, à chaque seconde, même quand on dort, même quand on va mal. Et on n'a jamais, pour lui, la moindre pensée compassionnel quand il souffre et la pensée de remerciement quand il va bien. Ça me chagrine un peu. Moi-même, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir un peu plus de gentillesse à son égard, parce que je crois vraiment qu'il le mérite. Un petit écart, tiens. Moi, quand je parle de ce genre de sujet, je ne peux pas résister à l'envie de parler de l'effet placebo. Parce que l'effet placebo, ça a été le déclencheur dans ma carrière et dans mon intérêt pour ce type de sujet. Ça a vraiment été le déclencheur, la porte qui s'est ouverte sur ce territoire. Moi, je dis comme tout le monde, l'effet placebo, j'en avais entendu parler, tout le monde en entend parler. Je savais vaguement qu'il s'agissait d'une réaction du corps qui arrive à se guérir tout seul en prenant des pilules de sucre. Je pensais à l'époque que c'était une espèce d'artefact, que c'était une toute petite proportion, un mécanisme inexpliqué mais très réduit. Et puis un jour, je suis tombée sur des chiffres et je me suis aperçue que, selon les études, le placebo arrivait à provoquer parfois jusqu'à 75-80% d'effets positifs, c'est-à-dire d'amélioration des états pathologiques. Et j'ai été proprement sidérée. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'un mécanisme pareil soit traité par la science officielle de façon aussi mineure? On lui a trouvé une place à l'effet placebo. En fait, on en a fait un instrument. Depuis 1975, il fait partie officiellement des outils qui permettent de tester l'effet des médicaments. C'est-à-dire que quand on teste une nouvelle molécule, on choisit deux groupes d'individus porteurs de la même maladie. À l'un, on donne le médicament. À l'autre, on donne un médicament ayant exactement la même forme, la même couleur, etc., la même apparence, le même mode d'administration, mais vide de substances actives. Et puis après, on mesure les résultats dans un groupe et dans l'autre. En général, les expérimentations sont faites en double aveugle, c'est-à-dire que ni les malades, ni les médecins qui leur administrent le médicament ne savent s'ils administrent un placebo ou un vrai médicament. Et puis après, on mesure de façon mathématique. Puis si le médicament a plus d'effet que le placebo, on dit le médicament marche. Et puis s'il en a moins, on dit il ne marche pas. Et puis voilà.